enough.
Bonjour et bienvenue comme un bruit qui court, l'émission de reportage dans tous les sons et dans tous les sens.
En direct de Studio 611, une émission réalisée par Jérôme Chélius, assistée de Karen Dehay, avec à la technique aujourd'hui Dimitri Gronoff et Mathias Alléon.
Au sommaire de ce samedi, science-fiction et ballon rond, l'ouverture diplomatique à Cuba, vue depuis les gradins du stade Pedro Marrero, et l'histoire du Terminator, une fable politique avant-gardiste sur la société de surveillance.
Ce que Snowden nous dit à tous, Sarah Connor que nous sommes, c'est que cette technologie implacable a déjà commencé à nous cibler, et déjà en train de nous courir après.
C'était très émouvant de chanter l'hymne états-unien parce qu'on ne pensait pas pouvoir chanter un jour cette hymne.
Vous croyez toujours qu'il est fou ?
En ma qualité de psychologue, je suis sans réponse.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Comme un bruit qui court, qu'à Cuba, il ne fait pas bon de s'opposer au régime castriste. Que la liberté d'expression est somme toute assez réduite et que les dissidents politiques atterrissent souvent en prison. Mais attention, pas celle de Guantanamo, celle-là est américaine. Depuis 60 ans, ces questions de liberté fondamentale sont au cœur de la guerre que livre le monde occidental à Cuba, les États-Unis en tête. Tout cela, chers auditeurs, vous le savez. Mais aujourd'hui, à l'heure de l'ouverture diplomatique, et alors que tous les projecteurs sont braqués sur la petite île, c'est dans l'ombre des bunkers du complexe militaro-industriel que se joue l'avenir de nos libertés publiques. Fidel Castro en avait rêvé, la NASA, Google, Apple, Intel et Facebook ont fait mieux. Non pas simplement empêcher la dissidence de s'exprimer, mais tuer l'idée même de contestation dans l'œuf. Car dans nos sociétés a priori libres et ouvertes, la réalité a désormais dépassé le pire des scénarios de la science-fiction. Terminator est dans nos poches et s'apprête à contrôler nos esprits. Alors pour ne pas finir en prison, celle de Guantanamo cette fois, petite leçon d'autodéfense pour éviter l'autocensure avec Jérémy Zimmerman de la Quadrature du Net que Guy Vongtil a rencontré. Parce que raconter des histoires, c'est aussi un moyen d'éveiller les consciences. Jérémy Zimmerman a élaboré pour vous une fable politique. Et puis nous partirons à Cuba, où Antoine Chao a assisté au premier match de foot opposant une équipe new-yorkaise à la sélection cubaine. Comme un bruit qui court qu'après un embargo économique et commercial de plus de 50 ans, c'est par le ballon rond que le Terminator tente d'atteindre son but. Du fond de la poche à la pointe du crampon, comme un bruit qui court dans tous les sons et dans tous les sens, c'est jusqu'à 16 heures.
Charlotte Perry,
Guy Vongtil, comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
The rights of citizens.
The future of the internet.
Edward Snowden n'a l'air ni intimidé ni anxieux. Pourtant, il est recherché par les services secrets américains.
Je suis un homme comme les autres, qui fait son boulot tous les jours. Mais à force d'y voir des choses qui me paraissent étranges, je me suis dit qu'il fallait que ça se sache.
Ed Snowden.
The man behind those revelations.
Edward Snowden travaillait à Hawaï pour le compte d'un sous-traitant de l'Agence de sécurité nationale. Il gagnait 200 000 dollars par an, avait une petite amie, bref, une vie plutôt confortable jusqu'à ce qu'il se décide à dénoncer la surveillance d'Internet par les services secrets américains.
Qui suis-je ? Ça n'a pas beaucoup d'importance. Si je suis la pire personne au monde, vous pouvez me détester et passer à autre chose. Ce qui est important ici, ce sont les conséquences. Ce qui compte vraiment, c'est le genre de gouvernement que nous voulons, le type d'Internet que nous souhaitons et le genre de relation entre les gens dans la société.
Il y a 2 ans, jour pour jour aujourd'hui, un 6 juin 2013, nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Ce jour-là, Edward Snowden s'adressait au monde, et depuis, que vous le vouliez ou non, que nous le voulions ou non, notre relation à la technologie a changé. Nous ne pouvons plus dorénavant faire confiance aux machines.
Hasta la vista.
Depuis que l'on sait que les services de sécurité américains et occidentaux surveillent, contrôlent et inspectent tout ce qui passe sur Internet, tout ce qui passe de nous, de vous et de tout un chacun, au nom de la lutte contre le terrorisme,
la guerre nous a été déclarée.
Eh bien, depuis que nous le voulions ou non, nous sommes obligés de reconnaître que nos humanités sont indissociables de nos machines.
Cher, peau, sang, il fait partie du groupe des cyborgs.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette semaine, le projet de loi sur le renseignement passera en discussion au Sénat.
Nous mettrons en place la surveillance contre nous-mêmes.
Après avoir voté, comme nous vous l'avions raconté, à l'Assemblée nationale, malgré la levée de boucliers de toute une partie de la société civile et même d'organes officiels...
Je vais donc mettre aux voix le projet de loi.
Alors vous vous dites à juste titre, je n'ai rien à cacher puisque je ne suis pas un terroriste, car vous faites partie de l'extrême majorité des utilisateurs d'Internet qui ne sont pas des geeks, qui ne sont pas des Internet natives, c'est-à-dire ceux qui sont nés en même temps qu'Internet. Vous êtes des utilisateurs dociles et des consommateurs ravis de tout ce que nous apporte le monde 2.0. Mais à qui les machines obéissent-elles? À nous, aux utilisateurs et propriétaires, ou à d'autres? Qu'advient-il de nos libertés quand tout peut être surveillé? Et c'est pourquoi on a voulu faire appel aux lumières de quelqu'un que vous avez déjà entendu dans cette émission. Il s'agit de Jeremy Zimmerman.
L'État use de violence contre les citoyens, contre nos libertés.
Co-fondateur de l'association La Quadrature du Net.
On voit que des prétextes très émotionnels sont utilisés pour maintenir l'opinion publique dans la peur et ainsi imposer des dispositions qui sinon seraient absolument inacceptables.
Et qui est un de ceux qui nous alertent sur notre responsabilité individuelle à ne pas se contenter de subir.
Belle soirée pour une malade.
Et c'est pourquoi Jeremy Zimmerman nous a dégoté une allégorie, une fable qui nous permette de mieux comprendre et de mieux réagir.
On s'aperçoit qu'il est très difficile de mobiliser sur ces questions de protection de la vie privée et de surveillance en général.
Et si nous étions rentrés dans le monde de Terminator?
Terminator est programmé pour s'infiltrer et tuer moitié homme, moitié machine. Son squelette est un mécanisme de combat hyper sophistiqué, mu par une chaîne de microprocesseurs, invulnérable et indestructible, mais entièrement recouvert de tissu humain. Chair, peau, sang, il fait partie du groupe des cyborgs.
Mais qu'est-ce que tout ça a à faire avec
Fais
toi?
Fais ce que je dis! On va laisser cette voiture.
Petite leçon de storytelling à l'américaine.
On parle en anglais du storytelling, le racontage d'histoire, si j'ose dire.
Jeremy Zimmerman.
Eh bien, de la même façon qu'on nous dit que c'est les vainqueurs qui racontent l'histoire, qui écrivent l'histoire, eh bien, pourquoi ce ne serait pas nous, citoyens, d'écrire l'histoire, d'écrire des histoires, de nous raconter des histoires pour faire comprendre ces choses? Et au passage, pourquoi ne pas se servir dans l'inconscient collectif et dans la vaste somme d'histoires qui ont déjà été racontées et qui sont déjà dans nos esprits à tous. Et de là, en partant du film Terminator de 1984 par James Cameron, un chef-d'œuvre au demeurant, hein, qui, quand on avait 10-12 ans à l'époque, nous semble être juste un film d'action, mais qui a en réalité une portée presque philosophique, quasiment prophétique.
Et ça avec Arnold Schwarzenegger, dans la même phrase.
Tout ça avec Arnold Schwarzenegger, effectivement. Et donc, précisément, l'idée, c'est de se baser sur l'histoire du Terminator pour se rendre compte que, quelque part, la réalité, notre réalité, est au niveau, voire pire, aurait même déjà dépassé la fiction de quelque chose d'aussi effrayant que l'histoire du Terminator. Et de là, peut-être, arriver à mieux se poser la question si le Terminator, quand il est brillant, qu'il a l'œil rouge, qu'il a l'accent autrichien et des grosses armes automatiques, s'il fait flipper tout le monde.
Parce que c'est un film qui faisait peur.
Parce que c'est un film qui fait très peur. On se sent pourchassé comme les héros Sarah Connor et Kyle Reese tout au long du film. Si ça fait peur, pourquoi la loi renseignement, la surveillance de masse, la collaboration de toutes les entreprises de la technologie avec cette entreprise de violation massive de nos libertés fondamentales, elle ne ferait pas tout aussi peur?
Alors justement, pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui s'en souviennent pas en quelques mots, Jeremy Zimmerman, le pitch
alors,
de Terminator.
Si vous n'avez pas vu le film Terminator, il est là au moment d'interrompre le programme pour le rattraper par la suite une fois que vous l'aurez vu. Terminator raconte une histoire qui se passe dans deux époques à la fois, qui se passe dans un futur assez proche, situé en 2029 au moment du film, et dans un présent qui se passe donc à l'époque du film en 1984.
Combien de fois faut-il que je vous le dise ? Il va la tuer. Il est programmé pour ça. Il ne peut rien faire d'autre. Il est invulnérable. Mais il va vous ridiculiser.
Deux cadavres ne vous suffisent pas, merde !
Dans le film, un héros de la liberté est projeté depuis le futur dans le présent pour avertir Sarah Connor, qui est une citoyenne lambda, qu'elle va avoir un rôle essentiel à jouer pour l'avenir de nos sociétés.
Il faut que tu survives pour que je puisse naître.
Elle va avoir un rôle dans le futur.
C'est tout.
Et donc, stopper ce futur.
La série précédente avait une peau synthétique. Ils étaient faciles à repérer. Mais pas lui. Il est comme un être humain. Il transpire. Parle même comme toi et moi. On s'y tromperait.
Sarah Connor.
J'ai peut-être l'air stupide, mais des êtres comme ça, ça n'existe pas encore.
C'est vrai. Pas avant 40 ans.
Et donc, dans ce futur, un réseau d'ordinateurs de la défense, à qui on a fait confiance pour tout,
Skynet,
qui sont interconnectés à tout, deviennent en quelque sorte conscients et décident d'annihiler l'espèce humaine.
Donc, parce que c'est nous le problème.
Parce que le problème, c'est nous. Donc, Kyle Reese vient de ce futur pour expliquer ça à Sarah Connor. Et le Terminator, c'est ce robot dont la caractéristique principale est d'être absolument instoppable.
Je veux dire qu'ils existeront dans le futur.
C'est un robot tueur qui est une armure métallique recouverte de peau humaine. Donc on ne voit pas, à première vue, la dangerosité du Terminator.
On voit Schwarzenegger.
Plus le film avance, plus il se prend des impacts de balles, plus sa nature robotique transparaît au travers de la peau artificielle. Mais à la base, le Terminator est indétectable. Mais il va avancer de façon inéluctable vers sa cible, Sarah Connor.
Sarah Connor.
Pour la tuer.
Oui, et mort, Thierry.
Eh bien, j'ai été frappé de combien ces métaphores, de combien cette histoire est en réalité complètement calquée sur notre présent. Nous vivons aujourd'hui à l'ère du Terminator. Si vous y réfléchissez, un réseau d'ordinateurs de la défense, c'est la NSA. Ce réseau d'ordinateurs, et là c'est comme ça qu'il est expliqué dans le film, à qui l'on a fait confiance pour tout. Faire confiance pour tout, c'est ce que fait tout un chacun avec Google ou avec Facebook. Tout ce que vous lisez sur Internet, tous les gens que vous connaissez, où vous allez, où vous souhaitez aller, ce que vous souhaitez peut-être acheter, ce que vous achetez, on a fait confiance à Google, à Facebook, mais pareil à Apple et à Microsoft. Nos données les plus personnelles, les plus intimes, nos moindres faits et gestes sont aujourd'hui entre les mains des produits de ces compagnies-là.
Et maintenant, avec la nouvelle montre à la pomme, on peut, c'est même notre battement cardiaque et nos calories brûlées.
Et exactement. Ces ordinateurs se retrouvent aujourd'hui sur le nez, sur le poignet. L'étape d'après, c'est sous la peau, comme dans le film.
Vous me faites peur.
Donc, un réseau d'ordinateurs de la défense, ça on a. À qui l'on a fait confiance pour tout, ça on a. Interconnecté avec tout, ça on a aussi. Parce que Google, c'est pas seulement les requêtes sur le moteur de recherche, c'est pas seulement les trajets, c'est pas seulement les emails, c'est évidemment tout ça mis bout à bout. Mais aussi, on a vu que le programme PRISM de la NSA consistait à avoir accès en permanence à toutes les données de tous les services de toutes ces entreprises-là.
Et
donc c'est Google plus Facebook plus Microsoft plus Apple et d'autres recoupés tous ensemble pour bâtir des profils d'une précision démente. Et ce réseau, dans le film, a pris une décision, est devenu conscient et a pris une décision. Eh bien, c'est ce que l'on voit aussi lorsque des entités comme la NSA, ou en France, le renseignement français, deviennent une espèce d'État dans l'État. Et en utilisant les peurs ambiantes et peut-être aussi l'incompétence des politiciens, vont réussir à obtenir sans cesse plus de pouvoir, moins de contrôle démocratique, plus de budget, et devenir quelque part presque plus puissant que les instances censées le contrôler. Et de là, le réseau Skynet, dans le film, prend une décision qui va être d'annihiler l'espèce humaine.
Il y a eu une guerre nucléaire. Il n'y a eu que très peu de survivants.
Je ne comprends pas.
Les ordinateurs du réseau de défense, toujours plus sophistiqués, contrôlant tout. Ils ont tout déclenché pour prouver leur science, une nouvelle forme d'intelligence. Qui ne pouvait tolérer l'existence d'une décision humaine. Et notre sort s'est joué en une microseconde.
Alors là, on n'en est pas encore là, mais ce réseau, en vrai, a pris la décision de massivement violer les libertés fondamentales, de massivement violer notre protection de la vie privée.
Extermination.
C'est décider d'annihiler nos individualités, d'annihiler notre humanité, d'annihiler notre capacité collective de penser, de parler, d'agir et au bout du compte d'asservir les êtres humains. Et c'est là la grande différence, c'est que dans le film, évidemment, c'est hollywoodien, c'est très manichéen, c'est 1h30 aussi, c'est un gros robot méchant avec des gentils en face, les uns dans le futur ont des lasers rouges, les autres ont des lasers verts, tout est très clair. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus pervers, parce que le Terminator, il est déjà en chacun de nous, il fait déjà partie de nous. Ce robot implacable que l'on ne peut pas arrêter,
le
et qui
T-800.
Cible un individu, ce T-800 qui affiche sur son écran, par-dessus son œil, les informations de profil de tous les gens qui regardent. Moi, ça me rappelle furieusement ces terminaux mobiles, ces ordinateurs mobiles que certains appellent encore téléphones, et qui, depuis une 10-15 d'années aujourd'hui, ont été transformés en des machines qui agissent contre leurs utilisateurs. Ce sont des ordinateurs dont on ne peut plus enlever la batterie pour s'assurer qu'il n'y ait plus d'électricité dans le microphone. Ce sont des ordinateurs dont on ne peut pas prendre le contrôle parce que Apple, Google et les autres s'assurent que vous ne puissiez pas avoir accès à tout. On ne peut pas savoir ce que fait la puce dite baseband, voilà, qui est la puce qui communique avec le réseau, qui
avec
communique
Skynet,
avec tout l'ordinateur et qui est déjà connecté à Skynet. Celle-là, on ne peut pas la contrôler.
Et ça, on l'a tous.
On a tous ça dans la poche. Et ce n'est pas seulement dans les mobiles. C'est aussi dans tous les ordinateurs contenant une puce de marque Intel, soit la vaste majorité, qu'il y a une plateforme dite d'administration à distance dans laquelle les concepteurs expliquent qu'il s'agit de protéger parfois l'ordinateur contre son utilisateur. Donc, ce Terminator, cette machine implacable qui cible un individu et qui ne le lâche pas, c'est pas un robot qui fait peur avec l'accent autrichien, c'est un joli petit appareil au coin rond, tout mignon, qui est vendu à grand renfort de marketing et pour lesquels on paye.
Parce que chez Apple, nous ne savions plus quoi inventer pour gagner encore plus d'argent, nous avons dessiné un objet qui va révolutionner les caisses de notre entreprise. L'Apple Watch est sans doute l'un des produits les plus inutiles que nous ayons créés depuis l'iPad, l'iPad mini ou encore l'iPod Nano. Toutes les fonctionnalités sont exactement les mêmes que sur votre téléphone, mais en plus galère puisque vous n'aurez plus qu'une seule main pour vous en servir.
Très utile.
Avec les frottements de manches de votre...
Il ne s'agit pas ici de faire du ludisme. Il s'agit de se poser la question comment reprendre le contrôle des machines, reprendre le contrôle de la technologie. Et c'est précisément là qu'intervient Kyle Reese. Kyle Reese, envoyé du futur.
Tu as vu cette guerre ?
Je suis né après. Au fond des décombres, crevant de faim, fuyant devant les PM.
Les PM ?
Les patrouilles de la mort. Des machines infernales fabriquées dans des usines automatisées. La plupart du temps parquées comme des bêtes dans des camps à la disposition des machines. Il y avait un homme qui nous a appris à nous défendre et à nous battre contre ces patrouilles de la mort et à anéantir ces saloperies de carcasses métalliques. Et ça a changé notre sort. Il nous a libérés. Il s'appelle Connor. John Connor. Ton fils, Sarah. Le fils que tu vas mettre au monde.
Pour avertir Sarah Connor, citoyenne lambda, pour lui décrire ce futur sombre duquel il vient et lui donner les moyens d'agir. Ce Kyle Reese, c'est Edward Snowden. Edward Snowden vient d'un futur sombre qui, en réalité, est déjà notre présent. Ce futur est situé dans les bunkers de la NSA, dans les bunkers de cette myriade de partenaires publics et privés qui participent de cette entreprise globale d'espionnage des individus.
Parce que lui, il était contractant pour la NSA.
Et nous sommes Sarah Connor. Je ne suis pas Charlie, je suis Sarah Connor. Et donc, je suis ce citoyen lambda. Eh bien, ce que Snowden nous dit à tous, Sarah Connor que nous sommes, c'est que cette technologie implacable a déjà commencé à nous cibler, est déjà en train de nous courir après, et est déjà sur le point d'annihiler nos humanités, nos capacités d'action, nos capacités d'être qui l'on souhaite être. Pour battre notre Terminator aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est le comprendre, c'est-à-dire comprendre la nature de cette technologie qui est conçue pour opprimer, qui est conçue pour contrôler. Et c'est là qu'est le coup de maître. C'est que le Terminator, on ne l'aurait jamais accepté dans notre salon, comme on accepte dans nos poches, dans nos salons, ces appareils. Et on les accepte parce qu'on est ignorant de la façon dont ils fonctionnent. Alors ce que nous apprend Kyle Reese, Edward Snowden, pour nous donner la capacité d'action sur notre futur, Sarah Connor que nous sommes, c'est précisément l'antithèse de cette technologie Terminator. Au lieu de la centralisation, de l'hypercentralisation des données, c'est la décentralisation des services et des communications. Au lieu de tout dire et tout faire via Google ou Facebook, d'utiliser un petit serveur qui permette de prendre le contrôle de ces communications, de savoir où sont stockées ces données. Il s'agit évidemment du logiciel libre qui permettra de garantir collectivement que ces logiciels ne vont pas être tournés contre nous. Ensuite, face à cette illusion de sécurité, ayez confiance. En face de ça, il y a une sécurité dans laquelle chacun est acteur. On peut ouvrir un canal direct, sans passer par Google, Apple, Orange ou qui que ce soit. On ouvre un canal direct dans lequel on estime qu'il y a un niveau de confiance suffisant pour que l'on ne soit pas victime de l'espionnage de masse. Là, on n'est pas dans la science-fiction du tout. On est dans des technologies qui existent, mais, et c'est là où le fait de se raconter des histoires va peut-être nous aider. Ces technologies, pour la plupart, existent et sont sur la table. Mais la vaste majorité des utilisateurs se disent « Ah ouais, mais Apple et Google, c'est simple, c'est sympa, ça marche tout seul, ils sont gentils. » Alors que de l'autre côté, ces machins-là, oulala, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué parce que je n'y comprends rien. Et donc, ce qui est le blocage le plus fort, c'est ce qu'il y a dans la tête des gens et qui les empêche de voir combien ce Terminator est déjà dans nos poches, combien il est dangereux et combien Kyle Reese, Snowden et tous les autres, combien eux nous donnent les clés de la compréhension et les clés de l'action pour aller changer les choses. Et bien là, il s'agit quasiment d'un choix de modèle de société. D'un côté, le monde de Skynet, noir, dans lequel nos humanités ont disparu, et de l'autre, le monde de Sarah Connor, dans lequel les individus prennent le pouvoir, prennent en main leur capacité de comprendre et d'agir, et collectivement bâtissent un monde dans lequel on est plus libre. Vous imaginez bien de quel côté de cette histoire je me trouve.
Jérémy Zimmermann, merci beaucoup. Et vous imaginez très bien quels vont être les derniers mots de conclusion de cette visite dans le monde magique de Terminator aujourd'hui.
Sarah Connor.
Hasta la vista, baby.
Ça, c'est Terminator 2. C'est une autre histoire.
Technologic.
Merci.
Sarah Connor.
Voilà, vous avez maintenant votre diplôme en terminatorologie. Et vous pourrez retrouver sur le site de l'émission toutes les références pour vous préparer à lutter à votre mesure contre Skynet. Et pour ceux qui pensent encore que ce ne sont là que de fantasmes hollywoodiens, petite information, sachez juste que des robots tueurs, ça existe. C'est ce que développe la société Boston Dynamics, qui en est à ce jour à son 6e prototype de robot. Sachez aussi que cette société Boston Dynamics a été rachetée par Google. Résultat, c'est maintenant officiel, Google, votre ami Google et votre Gmail, est maintenant propriétaire de robots tueurs. Hasta la vista, baby.
Et maintenant, nous partons à Cuba avec Antoine Chao, direction le stade Pedro Marrero, où c'est par le ballon rond que le Terminator tente une percée dans la société cubaine.
Comme un bruit qui court.
9-5 minutes.
El lenguaje universal del fútbol. Presidente de la Federación Cubana, previo al partido que efectuarán hoy la Selección Nacional y el Cosmos de Nueva York, desde las 5 de la tarde en el Pedro Marrero.
Les États-Unis sont en train de changer leur relation avec Cuba. C'est le plus grand changement de notre politique depuis plus de 50 ans. Nous allons mettre fin à une approche dépassée depuis des décennies qui n'a pas été capable de servir nos intérêts.
Roselino.
Roselino.
Rey.
Et Rey, voilà.
Si.
Et vous serez donc dans le stade pour soutenir.
Appuyamos l'équipe de Nueva York.
À vous pour New York.
Yo a Cuba, yo
a Cuba.
Et vous pour Cuba.
Cuba gana 5-0.
Et Cuba va gagner 5-0.
Non.
Ici, on joue plutôt à la pelota et c'est le baseball.
Sí, mucho.
Ouais, c'est plutôt football, baseball ici.
Pour le football.
Et ici, il n'y a qu'un stade. Il n'y a qu'un stade de foot. On se voit sur le terrain.
Un
petit coup de rhum, non merci.
Non.
Non,
que vive le replay.
Alors, qui des deux, Roselino ou Rey, qui déguste tranquillement une briquette de rhum torboyau dans la vieille ville, fait le bon pronostic? Vous le saurez, pour ceux qui n'ont pas vu encore le match, c'était mardi dernier, dans quelques minutes. En tout cas, c'était un grand moment de football spectacle que l'équipe du Cosmos de New York, spécialiste en la matière de spectacle, s'est empressée d'organiser dès l'annonce le 17 décembre par Barack Obama d'une normalisation prochaine des relations diplomatiques entre les deux pays. Alors pour Pelé, qui était invité d'honneur à la Havane par le Cosmos de New York pour assister à cette rencontre amicale et diplomatique, il est peut-être le roi du football, mais certainement pas celui de la défense de la démocratie si on se réfère aux années noires de la dictature au Brésil. Alors, la semaine dernière, Cuba a officiellement été retiré par les États-Unis de la liste des États soutenant le terrorisme. Ça s'agite de toutes parts, il est temps d'investir dans ce marché vierge, ou presque, puisqu'épargné ou mis à l'écart, selon le point de vue de chacun, de la société de consommation. Un grand match donc, socialisme tropical versus capitalisme occidental. Une Chevrolet 1955. On est 6 là dans la voiture et chacun paye 10 pesos en monnaie nationale, hein, 10 pesos cubains la course. Alors c'est assez cher pour un salaire cubain, parce que le salaire cubain c'est 500 pesos cubanos, même si c'est effectivement le moyen de transport le plus rapide et le plus efficace ici dans la Havane, avec toutes les grandes artères qui sont traversées par des norias de vieilles voitures américaines. Alors, il n'y a que des vieilles voitures, c'est un peu la marque de fabrique de ces almendrones, les grosses amandes, hein, un peu comme ces grosses voitures américaines ou russes. Il y a aussi des vieilles Volga qui traversent la ville de part en part et dans laquelle on peut monter en faisant un signe de la main et voilà, compléter les deux grandes banquettes de trois personnes et filer à travers la ville d'un côté à l'autre pour la même somme, hein, de 10 pesos cubanos. Et après il y a les belles américaines, beaucoup de Chevrolet aussi, mais qui ont été restaurées pour les touristes. Alors là elles ont des couleurs clinquantes, pimpantes, des roses, des verts flashy. Et ça c'est plutôt les voitures qui sont réservées pour les riches touristes qui viennent et qui se payent des tours de la ville dans les belles vieilles américaines. Alors là c'est vraiment le cliché, on voit les touristes avec les chapeaux qui se baladent dans leurs américaines décapotables pour une somme là. Et là tout le monde se dirige vers le stadio Pedro Marrero. Va al partido. Ah si, on vient de doubler l'équipe de football dans le bus qui se dirige aussi vers le stade. Là on est à 1h du match. Ils sont escortés par la police, par les motards. Voilà, voilà, ils nous font des signes. Ah ça c'est le Cosmos qui vient de nous doubler en bus. Ah devant c'est l'équipe cubaine et là c'est le Cosmos de New York. C'est deux bus, deux grands bus qui viennent de nous doubler. Ça se précise là. Malgré la pluie, le match va avoir lieu. Il tombe des cordes quand même depuis ce matin ici à la Havane. Et le match va commencer. Donc là, on passe la rivière qui nous emmène du côté de Playa, le secteur de Playa où se trouve le grand stade.
En el año 57 de la Revolución, transmite Radio Renault desde la Habana, Cuba. Hoy es martes 2 de junio de 2015. Locutores.
Sonia Suárez
y Daniel Pereira Brito.
Hasta luego.
Voilà, c'est l'entrée du estadio, du stade Pedro Marrero. C'est une forêt de parapluies qui se dirige vers le stade. Alors effectivement, il y a là les tribunes couvertes qui sont complètes, qui sont bourrées à craquer. Et en face, les tribunes non couvertes qui sont vides. Il faut dire qu'il pleut des cordes ici à La Havane aujourd'hui, en ce mardi 2 juin. Alors beaucoup de supporters à La Havane pour ce match historique. Il y a les bus des équipes qui sont arrivés sur le bord du terrain, juste en face de la tribune. Et ils vont sortir directement du bus pour rejoindre les vestiaires. Alors qui c'est qui va gagner ?
Cuba.
Cuba.
C'est Cuba qui va gagner.
Cuba, Cuba, Cuba. Cuba, 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 Cuba.
Il est important ce match.
Muy importante, muy importante. Sí, se rompen muchas barreras en este partido. Un lío muy grande, muy, muy grande entre Cuba y Estados Unidos.
Il y a beaucoup de choses qui se jouent sur ce match. C'est important qu'on joue contre les États-Unis aujourd'hui.
Hace muchos años que no se juega a esa altura entre un partido entre Cuba y Estados Unidos.
Parce que ça fait beaucoup d'années qu'il n'y a pas un match comme celui-ci entre Cuba et les États-Unis. Il y a beaucoup de barrières qui sautent aujourd'hui.
Aparte, la figura de Raúl por primera vez en Cuba. Et là, c'est Marie, l'importante est Marie
de
Tiempo.
Que Raúl soit là, la figure, le personnage de Raúl soit là ici, un grand joueur du Madrid, ça nous fait très plaisir de l'accueillir.
Raúl marque un gol et le Cubano marque un dos.
Voilà, nous on veut que Raúl il marque un but avec le New York, le Cosmos de New York, et que Cuba il marque deux buts. Alors c'est quand même assez étonnant hein, que tous les Cubains qui sont là, qu'ils soient pour le Cosmos de New York, parce qu'il y a. Leur joueur préféré, Raúl, qui jouait au Real Madrid, j'imagine acheté à prix d'or par le Cosmos de New York. Ça brouille un peu la lecture est-ouest ou nord-sud, parce qu'ici, quand on parle du nord, on parle des États-Unis.
Cuba,
Cuba,
Cuba, Cuba.
Esto va a ser un espectáculo fabuloso.
Ça va être un spectacle fabuleux.
Fabuloso, un espectáculo que estábamos esperando hace mucho tiempo.
Y ça faisait longtemps qu'on attendait ça.
Porque nos hace falta para los dos países.
Parce qu'on a besoin de ça y pour les deux pays.
Porque este partido lo que va a hacer, nos va a acercar más.
Ça va rapprocher les deux pays.
En todos los sentidos.
Dans tous les sens du terme.
Y vamos a aprender tanto nosotros como ellos. No importa quién gane hoy.
Et peu importe qui gagne aujourd'hui. Ce qui est important, c'est qu'on apprenne les uns des autres.
Lo importante son dos cosas. Primero, el paso que hemos dado. Y segundo, que se sigan repitiendo estos eventos para que el pueblo cubano y el pueblo americano se desarrolle en este sentido.
Et on a déjà fait un grand pas dans le rapprochement. Il faut que ça continue avec toujours plus de matchs et toujours plus d'entente entre les deux pays.
Esto ha despertado las grandes expectativas de muchos jóvenes cubanos, tanto niños, jóvenes y mayores.
Et ça, ça répond aux attentes d'une grande partie de la jeunesse cubaine, des jeunes et des moins jeunes.
Y he venido a apoyar con 300 participantes.
Et je suis venu avec 300 participants ici pour soutenir l'équipe.
A apoyar a nuestra selección nacional.
Soutenir notre sélection nationale.
Y eso es lo más importante.
Et ça, c'est le plus important.
Cuba gana hoy.
Et Cuba va gagner aujourd'hui.
San Antonio va a decir, siempre te defenderé, aunque el mundo...
match.
Ah, ça commence pas facile pour les Rouges. Les Rouges, les Cubains auront la balle. Contre-attaque états-unienne. Premier but du Cosmos de New York. Action cubaine. Attrapé par le gardien du Cosmos. Deuxième but pour le Cosmos de New York. 2-0 à 30 minutes à peu près de la première mi-temps. Et encore un but marqué par le Cosmos de New York. 3-0. Les temps sont durs pour la sélection cubaine. C'est la mi-temps. 4-0 pour le Cosmos de New York. Ça va être dur pour la sélection cubaine de remonter le score. Deuxième mi-temps, c'est l'euphorie dans les tribunes. 4-1. Coup de sifflet, c'est la fin du match. 4-1 pour le Cosmos de New York.
Puede ser un juego amistoso, bastante bien lo he visto.
Ça a été un bon match amical.
Hay cosas que también que tuvimos un poquito de falta en algunas cosas que no pudimos remediarla, pero bueno.
On a eu quelques manquements par moment, c'est vrai.
Para mí en la parte de la defensa fue que faltó muchas cosas. Defensa, mucha defensa.
Voilà, on a eu des problèmes en défense. C'est la défense qui a péché, je trouve.
Puede ser.
Est-ce que symboliquement c'est important ce match?
Muy importante un juego amistoso Cuba y Estados Unidos.
C'est très important un match amical comme ça entre les États-Unis et Cuba.
Sí, cómo no.
Puede... Dile, porque yo voy traduciendo para Francia.
Sí, sí puede haber una amistad y puede perdurar también. Y cómo no. Bravo juego que se hizo.
Il faut qu'il y ait de l'amitié entre les peuples et bravo à tous.
Esperemos que se repita, no sé, algún día más también.
Et on espère qu'il y en aura d'autres, des matchs comme celui-là.
Y que podamos seguir jugando amistosamente y llevando como amigos. Et
qu'on puisse continuer à jouer amicalement et qu'on continue à être amis.
Una amistad que es muy importante.
De l'amitié, c'est important.
Para el mundo completo, amistad, paz y unión.
De l'amitié, de la paix et de l'union.
En la unión está la fuerza.
L'union, c'est la force.
Y Cuba y Estados Unidos arriba todo el tiempo.
Et Cuba y les États-Unis arriba en haut tout le temps.
Amigos para siempre.
Amis pour toujours.
Para mí esto ha sido lo más grande del mundo, muy emocionado me sentí.
Al
saber de que por lo menos iba a cantar el himno de Estados Unidos, una cosa más.
De savoir que j'allais chanter cet hymne des États-Unis.
Muy emocionante porque nunca nosotros habíamos pensado en cantarlo debido sí. A mucha desunión que había dentro de este país y el otro.
C'était très émouvant de chanter l'hymne états-unien parce qu'on pensait pas pouvoir chanter un jour cet hymne du fait de tant d'animosité entre nos pays.
Seguiremos y estaremos siempre a la disposición de nuestra patria, que mi patria es Cuba, por supuesto.
On continuera toujours au service de notre patrie, c'est parce que c'est ma patrie, la patrie cubaine.
Así mismo.
Comme ça, oui. We'll be right back. Alors ça, c'est une des grandes artères qui traverse toute la Havane. C'est l'Inea, ou la 9e. Il y a une Buick qui passe, on va demander là. Alors voilà, là on est monté dans une vieille Oldsmobile, je crois.
53.
De 1953. Donc voilà, c'est les cuenta propistas, c'est les auto-entrepreneurs cubains.
Este coche lo compramos hace ya 10 años.
Ça fait 10 ans qu'on a acheté cette voiture.
Cantidad, cada día sale más y más. Estaban botados y lo fueron recuperando.
Donc c'est des vieilles voitures qui marchaient plus et petit à petit on les récupère, on les répare, on les remet en route quoi. Il y en a de plus en plus des Almendrones.
Da para comer.
Ça nous permet de manger, ça donne de quoi vivre cette affaire,
si.
Ce travail. Voilà, donc là on arrive en vue du Havana Libre, l'hôtel symbole de la nationalisation, parce qu'il est devenu donc hôtel Havana Libre juste après la Révolution. Il a été débaptisé de l'hôtel Hilton à l'hôtel Havana Libre. Mais étonnamment, Hilton, la chaîne d'hôtels américaine Hilton, ne s'occupait que de la gestion de l'immeuble, de l'hôtel, et les murs appartenaient au syndicat de l'hôtellerie cubaine. Donc, c'est pas une question qui va devenir problématique aujourd'hui avec la réouverture des relations diplomatiques entre les deux pays et la question d'indemnité du fait de la nationalisation des entreprises étrangères. Donc en ce qui concerne l'hôtel Hilton, l'ex-hôtel Hilton aujourd'hui Havana Libre, il n'y aura pas de complications. Alors là, ça y est, on arrive à l'université de la Havane qui est magnifique.
Hasta luego.
La décision était attendue depuis plusieurs semaines. Elle a été annoncée cet après-midi au département d'État. Washington retire Cuba de la liste des États soutenant le terrorisme. La Havane figurait sur cette liste noire depuis 1982, aux côtés entre autres de la Syrie et de l'Iran. Son retrait devrait ouvrir de nouvelles perspectives pour que la présence de l'oncle Sam ne se limite plus au défilé de ces belles limousines américaines des années 50 dans les rues de la capitale cubaine.
Iroel Sánchez.
Je m'appelle Iroel Sánchez, je suis cubain. Je suis journaliste et j'ai un blog, La Pupille Insomniaque, et je suis aussi un ingénieur en informatique. Je trouve que tout ce qui s'est passé depuis le 17 septembre est une victoire pour Cuba. Mais on ne peut pas ignorer qu'il y a beaucoup d'obstacles dans le chemin. Les États-Unis doivent vraiment changer leur opinion sur Cuba et sur l'Amérique latine pour que ce processus puisse aboutir à la normalisation des relations qui n'est pas que d'ouvrir les ambassades, mais aussi de stopper le blocus économique. Et Obama a reconnu lui-même que ce blocus était un échec. Mais il a écrit ce même jour que la politique états-unienne gardait les mêmes objectifs qui sont de changer l'organisation sociale, politique et économique de Cuba, ce qui n'est pas de leur ressort ni de leur droit, et le gouvernement et le peuple cubain doivent s'y opposer. Ça va donc être un processus de négociation complexe qui va demander du temps. Mais ce qui a été obtenu jusqu'à présent est encourageant. Mais nous devons garder un optimisme modéré. Aujourd'hui, si on annonce aux Cubains qu'ils devront payer pour leur éducation et payer pour leur santé, ou qu'ils peuvent être expulsés de leur logement, ce n'est pas acceptable dans l'imaginaire des Cubains. Les Cubains, dans leur immense majorité, n'accepteraient pas, même s'ils ont des critiques, même s'il y a des choses qui ne leur conviennent pas, ils n'accepteraient pas d'être privés de ces conditions, de ces acquis. Et les Cubains ne soutiendraient pas un gouvernement qui proposerait ça. Et la garantie de ces bénéfices sociaux n'est pas dans le gouvernement, mais dans le peuple cubain, dans la culture que la propre révolution a créée. Mais les transformations qui sont mises en œuvre à Cuba et que le peuple soutient cherchent justement à trouver des ressources économiques pour préserver ces garanties
Et c'est vrai que suite à ces transformations, il y aura une partie de l'économie qui passera aux mains du privé, peut-être 40% ou un peu plus. L'économie sera aux mains de coopératives ou d'entreprises étrangères dans le secteur privé. Et c'est vrai que cela pourrait fragiliser l'État social. Et je crois que l'indépendance, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à une sécurité citoyenne, à une vie digne, reste dans les priorités des Cubains.
La révolution a dado grandes soluciones, pero como
mais effectivement, la révolution qui a apporté beaucoup de solutions qui ont parfois créé des problèmes.
Capacidad cultural, educativa, académica,
l'accès à la culture, à l'éducation, à la science, font que les gens sont très qualifiés, très diplômés, mais le fonctionnement de l'économie ne permet pas de les rémunérer à leur juste valeur. Mais justement, les mesures économiques qui sont prises devraient permettre un nouveau développement pour régler ce problème, pour que cette capacité intellectuelle créative que le pays a créée puisse participer au développement de l'économie, justement, et soit correctement rémunéré. Et une des distorsions que ce problème génère, c'est l'émigration. Parce que les gens cherchent des revenus à la hauteur de leur capacité professionnelle. Et quand ils ne le trouvent pas à Cuba, ils vont le chercher ailleurs. Et par contre, dans d'autres pays d'Amérique latine, l'éducation est payante. Et c'est beaucoup plus difficile d'avoir des diplômes. Et les réformes économiques qui sont menées essayent de régler ces contradictions.
Buscan resolver esa contradicción.
Buenas. Vamos a la 23.4. Une Pontiac 8. 52 de 1952.
Je m'appelle Mariana Fiordelicio, je suis née à Cuba, j'ai vécu longtemps au Mexique et je suis rentrée à Cuba il y a 5 ans. Je travaille à Cuba Energy, une entreprise d'État qui travaille dans les énergies renouvelables.
Alors Mariana, on est en pleine période de dégel des relations avec les États-Unis. Ça va se concrétiser comment et comment vous vous envisagez la suite alors?
C'est une question délicate. D'abord parce qu'il a toujours existé une relation intense avec les États-Unis. Avant la révolution, il existait une relation de soumission des Cubains par rapport aux exigences des États-Unis. Disons comme une prostitution de l'économie. Cuba était le centre d'attraction des États-Unis. Et après, pendant les années de la révolution,
les États-Unis se convierten.
Les États-Unis sont devenus l'ennemi de Cuba. Donc une petite île avec très peu de ressources contre un géant économique. Et il existe en même temps un projet original, autonome et souverain du socialisme cubain.
Mantener el proceso revolucionario y mantener las victorias.
Préserver le processus révolutionnaire avec ses acquis sociaux de redistribution.
Pues implica mucho tacto y implica
demande beaucoup de tact.
Una relación con mucho cuidado de que hasta dónde pueden llegar, cuáles son los límites.
Nécessite de construire une relation avec les États-Unis avec précaution, en prenant garde à ne pas dépasser certaines limites au niveau commercial et politique.
Pues existe
en même temps
une grande communication.
C'est vrai qu'il existe une grande relation
parce
qu'il y a beaucoup de familles qui se sont fragmentées et beaucoup de Cubains vivent aux États-Unis. Cuba est un pays qui a très peu de ressources, mais qui a un système d'éducation universel, un système d'approvisionnement pour la nourriture de base.
Y tiene, digamos, un sistema universal de vivienda.
Y un sistema de logement garanti.
Todo esto es subsidiado por el Estado y en conjunto.
Tout ça est subventionné par l'État.
Junto con el salario.
Et donc en plus du salaire, cela devrait permettre aux Cubains de vivre une vie simple, mais avec tout le nécessaire.
Pero con todas las posibilidades. Sin embargo, los precios se han ido incrementando. Cuba
Mais cependant, les prix ont augmenté. Et Cuba a perdu sa relation avec le bloc socialiste, qui représentait 80% des importations
de Cuba. Y esto ha implicado que casi todos
Ce qui implique que toutes les ressources de l'État sont utilisées pour assurer cette politique sociale.
Y para un profesional, con el salario que gana, que son aproximadamente 500 pesos mensuales, 20 dólares.
Et pour un salarié qui gagne 500 pesos par mois, l'équivalent de 20 dollars.
Con lo cual puede adquirir todo eso, ¿no? Salud, transporte, restando todas esas cuestiones, la libreta de abastecimiento.
Malgré tous les avantages sociaux dont il bénéficie,
poco ingreso
cela ne suffit pas pour faire vivre la famille.
Completar todas las cosas que son necesarias para la familia. Y entonces se crea este proceso.
Et c'est pour cela que les jeunes et les salariés préfèrent faire des boulots qui ne sont pas en relation avec leur diplôme.
Prefieren o toman preferencialmente trabajos que no tienen que ver con un desarrollo intelectual o profesional o el ejercicio de lo que estudiaron, sino que prefieren ya sea migrar o trabajar como mecánico.
Ils préfèrent soit émigrer, soit travailler comme mécanicien ou comme chauffeur de taxi ou dans le tourisme, plus que dans la construction d'un projet de développement des forces productives de l'économie du pays.
Desarrollo de las fuerzas productivas, de desarrollo de la economía nacional. Y del proyecto
social
en general. Entonces sé que hay procesos contradictorios éticamente y procesos de construcción
Alors, paralela qu'il y a des processus éthiquement contradictoires, des projets parallèles de construction d'un socialisme et d'un capitalisme. Mais je pense que le Cubain moyen veut les deux choses à la fois, les bénéfices du capitalisme et du socialisme. Et ça, je ne sais pas si c'est possible.
Nous continuerons sur ce sujet passionnant à l'écoute des espoirs et des inquiétudes que suscite la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays. Après l'échec de la politique d'hostilité et du blocus économique, ambiance guerre froide, la stratégie de la main tendue proposée par Barack Obama laisse aussi perplexe la droite républicaine, notamment à Miami, et nous y serons samedi prochain.
Comme un bruit qui court, c'est fini pour aujourd'hui. Juste après les informations, vous retrouvez Colin et Maudouy pour Si l'Amérique m'était comptée.